von den Situationisten zur Poesie, Pierre. Vom Mai 68 zur Poesie.
La poésie, j'ai commencé avant.
Avant les situationnistes?
Oui,
ah oui,
oui, oui, encore, oui?
C'était quand?
J'ai commencé tôt.
C'était quand?
Je ne sais pas.
Non.
15 ans, 16 ans.
Ah, au lycée?
Mmh. Oui, oui, d'accord, au lycée, oui. Mmh. Oui, vers la fin du lycée. J'ai fini le lycée à 16 ans.
Ah, ok. Tu avais des bonnes profs? Tu avais des profs qui t'ont inspiré ou plutôt non?
Plutôt non, mais bon, il y en a eu deux ou trois, quoi. Mm-hmm. C'est rare, mais enfin, ça arrive. Oui, j'ai eu un prof d'histoire, je me souviens beaucoup. Qu'à l'époque, j'avais décidé que je voulais devenir historien.
Ah! Parce qu'il t'a impressionné.
Oui.
Pourquoi il t'a impressionné?
Hein?
Pourquoi?
Bon, l'histoire m'intéressait, et puis la manière dont il racontait ça, quoi. Hein? Ah oui, bon, ben, je sais pas.
Et tu as commencé avec quelle sorte de poésie? C'était les surréalistes ou c'était classique?
Alors attends, c'était en 1947.
Ah, oui.
J'avais.
C'était après. C'était après la guerre.
Après la guerre, oui.
Yeah.
Et il y a un point, j'étais en classe de seconde. En seconde première. Mm. Et il y a un professeur, qui est un professeur de français. Le jour de la rentrée, le premier jour de classe, il est arrivé, il avait un livre, et il nous a dit « Oh, je viens de trouver un livre formidable, un grand poète, un livre formidable, je commençais à lire, mais je vais vous lire. » Et il nous a lu de la première page à la dernière page, et c'était « Parole de Jacques Prévert ».
Ah non.
C'est comme ça que j'ai découvert la poésie. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Oui.
J'ai acheté, j'ai lu et commencé comme ça.
Ah, c'était Prévert. Mm.
Ah, ok.
Et des Prévert, auquel je suis resté fidèle.
Oui, hein. Mm-hmm.
Toute la vie.
Toute la vie. Je suis même allé il y a. L'année dernière, ou il y a deux ans.
Il y a deux ans, je crois.
Je suis allé à sa. Sur sa tombe.
Oui. Mm-hmm.
En haut, là-bas. Il y a toujours, je me souviens, m'être disputé beaucoup de fois avec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas de la poésie. Comment ça? Moi, j'ai découvert la poésie avec Prévert.
Ok.
Par Prévert.
Ok.
Et les critiques disent qu'il est trop
populaire.
Populaire, hein, trop simple, trop.
Oui,
trop simple.
Oui, c'est le langage parlé.
Oui.
Bon, c'est pas. Il y a plusieurs genres de poésie, plusieurs sortes de poésie.
Bien sûr.
Je ne dis pas la poésie, c'est Prévert et puis
ouais.
Rien d'autre. Ouais. Non, mais c'est de la poésie.
Ouais.
Parce qu'avant, j'avais lu des poètes, bon, voilà. C'était bon, j'étais en seconde, mais c'était au lycée, quoi. Pour les poètes classiques ou autres.
Ah ouais.
Bon, mais bref,
ok.
Ouais, ok.
C'était une question du cœur, avec Prévert.
Ouais. Parce que je voudrais aussi parler de la traduction. L'allemand, quand est-ce que tu as commencé et comment tu as appris tellement bien l'allemand? Et c'était aussi un coup de cœur, l'allemand, ou avec qui tu as appris l'allemand, ou ton amour pour l'allemand? C'était aussi par un écrivain ou par une écrivaine ou...
Non, par la langue,
Tu l'avais au lycée, tu as appris l'allemand?
Oui. Bon, mon père était professeur d'anglais.
Je sais.
Et il avait dit, bon, pensez peut-être que moi aussi je deviendrai professeur d'anglais. Bon, il m'avait dit, tu vas apprendre l'allemand, parce que c'était lui qui décidait, bien sûr. En sixième, au début, tu vas apprendre l'allemand, et puis après, en quatrième, deux ans, trois ans après, on pouvait choisir ou une autre langue, l'anglais, ou bien le grec.
Ouais. Ah.
Bon, alors il m'a dit, tu vas faire comme ça. Et il pensait, il fera anglais. Alors moi, pour embêter mon père, monsieur.
Ah.
Quand je suis arrivé en quatrième, j'ai dit au flanc, je vais apprendre le grec. Bon, alors, d'ailleurs, je l'ai un peu regardé après parce que le grec c'est pas très facile. Ouais, la grammaire, pou. Bon, alors, j'en avais par-dessus la tête de la grammaire française, la grammaire latine. La grammaire allemande.
Hein.
Ouais. Bon, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux dire? L'allemand.
Oui, ça, parce que.
Non, ça m'a plu. Et puis, bon, voilà, pour j'ai continué donc allemand tout le temps du lycée.
Ouais.
Je suis allé en Allemagne, je ne sais plus trop quand là. Assez jeune, très tôt. En fait, il y avait des échanges.
Ah oui, d'accord.
Il y avait un échange une fois. La première fois. Avec une fille.
Ah
oui. Je suis plus en savoir si perdu de vue. Mais, comme ça. Et voilà. Et bon. La fille ne m'a pas déplu. Et l'allemand non plus.
Ah. Et c'était où? Tu te rappelles dans quelle ville tu étais?
Oui, à Francfort.
Ah, à Francfort.
Oui. J'étais à Munich et à Francfort.
Ah oui, d'accord.
Oui, l'allemand m'a plu tout de suite.
Oui, ok. Oui, super. Et tu les parles très très bien.
Mm-hmm. Je commence un petit peu à perdre d'habitude. Mais
oui, bien sûr.
À l'époque, je parlais bien.
Mm-hmm. Ouais.
Bon, j'ai passé en tout une dizaine d'années en Allemagne.
Ouais. Mais alors à l'école, tu as appris l'allemand, tu as fait déjà des échanges avec cette fille, et Francfort et Munich. Et après le bac, tu as fait l'école préparatoire, n'est-ce pas?
Normale
supérieure à Paris. Alors tu es monté à Paris, n'est-ce pas?
Louis le Grand,
tu étais au...
Non. Il y a deux grands lycées qui préparent l'école normale supérieure, c'est Louis le Grand et Henri IV.
Ah, Henri IV.
Alors c'est... les super crack, les premiers,
ils
vont à Louis le Grand.
Ouais.
Moi j'étais troisième.
Ah oui, d'accord.
J'étais à Henri IV.
Henri IV. Ouais.
Tu connais?
Oui.
C'est à côté.
Oui,
parce que
oui, je sais.
C'est deux vieux lycées qui préparent normale.
Ouais. Et tu étais à l'époque, tu étais alors. Dans l'internat, tu y as habité parce que tes parents étaient à Bordeaux.
Oui.
Et après, c'était les études. Tu es entré en école
Non. Au début, mon père, il voulait entrer en Norvège.
Ouais.
Parce que c'est normal.
Oui, je sais.
Bon. Il n'est pas arrivé. Alors, il s'était dit, bon. Fiche.
Ouais.
Et alors il m'a raconté normal, ta. Si tu rentres en normal, après c'est toi le chef, tu vas devenir président de la République ou je sais pas quoi. Alors, bon. Et puis, au début, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et puis, il m'a tellement bassiné, comme on dit, les oreilles.
Ouais.
Normal, je me suis dit, bon, normal, ça suffit.
Ouais, ok.
Et alors, je me suis arrêté de travailler, de préparer, parce que c'est très dur.
Ouais.
Et j'ai laissé courir. Et bon, Bon, voilà, voilà.
Ok, ok.
Et alors, après, j'ai fait. Je ne sais plus combien d'années à Paris et à Bordeaux. J'ai fini à Bordeaux.
Ouais. Pour être prof ou.
Oui, 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 pour être prof. Et je n'avais pas du tout envie.
Ouais.
J'étais sauvé, comme tous les Français, j'étais sauvé par le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il a sauvé la France et puis il m'a sauvé en bas. J'avais ce qu'on appelle un sursis pour les services militaires. Mmh. Les étudiants
oui.
Ils peuvent faire leurs études. Oui, oui,
oui. Wie nennt man das? Aufschub oder sowas. Mmh. Also, wer studiert, musste bei uns auch nicht zum.
Mmh. Ouais. J'avais un sursis qui a duré, je ne sais pas quoi. Deux ans, puis encore deux ans, puis encore deux ans.
Ouais.
Bon. Et puis, c'était la guerre d'Algérie. Vers la fin, mais enfin, c'était toujours la guerre d'Algérie. Et le général de Gaulle, il avait besoin de soldats. Mmh. Alors, il a dit, général, moi, général, le sursis, qu'est-ce que c'est ça? Alors, apportez-moi la liste. Apportez-la liste. Il dit, bon, allez, trac, trac, trac. Ah. Le sursis, c'est fini.
Ah.
Oh, ah, bon, d'accord. Alors, je suis parti. Je suis parti au Maroc et en Algérie.
Ouais.
Et là, professeur, c'était fini.
Ouais. Ok. Et tu avais quel âge, là?
30 ans, peut-être.
Oui, 30 ans.
Ouais. Ouais. Ouais.
Et les études, c'était allemand et les études,
c'est...
Ah, allemand.
Ben, ah. Oui, à partir d'un... Après le baccalauréat,
ouais.
Après les années de préparation, tu peux choisir.
Ouais.
Tu peux choisir allemand, c'était uniquement
ouais.
Allemand.
Ah, pour être prof d'allemand.
Ouais, ouais.
Ouais.
Und aus Algerien bist du zurückgekommen nach Frankreich, als es eine Amnestie gab?
Ja, 67.
Aha. Ah, presque. Ouais. Alors tu étais quelques années là.
Oui, c'était formidable. Oh, 67, je suis rentré, 68, c'était.
Oui,
c'était
explosé.
La fête.
Ouais. L'explosion.
Ouais. Ouais. Alors tu es rentré à Paris ou à Bordeaux?
À Paris.
À Paris, ah. Alors tu étais 68 à Paris.
Ouais.
Alors c'était alors. Les situationnistes waren ja schon. Die haben wir noch nicht untergebracht.
Je suis revenu en 67, donc je crois, à Paris. Et un jour, en 67, fin 67, toujours, je passe, comme ça, comme tous les jours, en bas du boulevard Saint-Michel, en bas du boulevard Saint-Michel, au croisement de Saint-Michel et Saint-Germain, il y a un kiosque, un journaux, tout ça. Et je passe là, et je regarde, et je vois un cahier comme ça, international situationniste, 8, je crois que c'était numéro 8. International situationniste, bon,
en chromolux,
hein?
En chromolux,
oui,
l'enveloppe c'était
oui,
formidable chromolux.
Oui. Ah. Les reflets tout brillants,
ouais.
8.
Inconnu, inconnu, une chose comme ça était inconnue.
Alors, je prends, je l'ouvre.
Ah.
Ah. Je l'ai acheté
ah.
Et c'est comme ça que j'ai connu. Ouais. Ouais. Et attends, qu'est-ce que j'ai voulu dire? 68.
C'était la fête, tu as dit. Alors, tu es rentré d'Algérie en 67.
67.
À Paris.
À Paris. Oui,
ouais. En 68. J'étais là. Oh.
Mais tu as, quand tu as lu international situationniste. Tu as trouvé des autres gens qui discutaient les thèses des situationnistes ou tu étais toute seule?
Non, pas.
Waouh!
Il n'y en avait pas beaucoup, bon, je ne les connaissais pas.
Oui, tu ne ouais, connaissais pas les gens.
Non,
ah!
Ouais, ouais, ouais. Et alors, peu après, apparu en gros volume, comme ça, les. 10 premiers, 8 premiers, ou c'était le numéro 8, je crois. Et le numéro 10, il a paru les 10 que je n'avais pas.
Uh-huh.
J'ai lu, donc j'ai tout lu à ce moment-là.
Et après, tu as rencontré les gens.
Oui, j'ai rencontré Van Legem, je ne sais plus quand. Ah, oui, parce que, bon, j'ai lu et... Oui, j'ai commencé à traduire, je me suis dit, il faut que je traduise ça. Et le traité de savoir-vivre, et j'ai commencé à traduire. Et je ne sais plus quoi, j'ai dû l'écrire ou je ne sais pas. J'ai pris contact avec lui et je l'ai rencontré, je ne sais plus très bien comment ni où. J'étais en Belgique à un moment. C'est avec Nadine, on était allé en Belgique. Je restais un an peut-être en Belgique.
Ah là, tu étais déjà avec Nadine?
Ouais.
Ah.
Ouais. Et j'ai dû le rencontrer là-bas. Ah.
Mais alors, pour le traduire, tu étais à Hambourg, non? Tu venais à Hambourg?
Oui, oui. Oui.
On se rencontre?
Oui.
On fait l'édition? Et tu as traduit le premier Flugschrift avec les thèses sur la révolution de la vie quotidienne. C'était le premier texte situationniste pour notre commun, projet commun.
Alors, c'était la première traduction que tu as fait?
Non, des thèses situationnistes en Allemagne, je pense. Non, Pierre? Parce que le traité était traduit en Allemagne par les autres gens. Gegengesellschaft.
Ouais. Ah, ok. Yeah.
Et la Société du spectacle aussi, c'était traduit.
Ah, ok.
Et tu as proposé quelques textes de Vanegem, je pense, pour une petite livre sur la révolution de la vie quotidienne.
Ah, ok. Tu étais déjà traducteur de profession à l'époque? Quand?
Je crois que oui.
Oui?
C'était pas une profession, c'était une obsession.
Ouais. Oui, mais il fallait bien vivre alors.
Oui. Je sais plus comment j'ai commencé. Et je passais un jour à Lausanne.
Ah oui,
où je dans le CIRA. Il y avait le Centre International de Recherche Anarchiste, le CIRA.
Ah,
j'étais en rapport avec eux, j'étais jamais allé, mais j'avais écrit, c'était une bibliothèque, ils envoyaient des livres, on lui disait, et un jour je passe là, et je me souviens, il y avait une femme qui s'occupait de ça, une femme...
Marianne Henkel,
non? La mère
de Marianne.
Marie-Christine.
Marie-Christine.
Une femme extraordinaire, une femme de suédoise d'origine, femme de diplomate, pas du tout hautaine, mais très. On voyait qu'elle avait de la classe, mais très sympathique, très aimable. Bon, et un jour je passe là, je ne sais pas d'où je venais, j'allais à Hambourg, je crois. Et elle me dit. Je dis, bon, je vais en Allemagne. Ah bon, qu'est-ce que tu savais que je parlais allemand, fait que j'ai des études d'allemand. Et elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Quelque chose, je sais pas. Traduire, ça ne t'intéressera pas?
Jamais
pensé.
C'était elle.
Pourquoi pas? Je me dis, c'est bien, tu sais, c'est libre et tout. Et puis elle avait une idée. Elle avait son idée. Elle me dit, bon, si tu veux, je connais là. Tu connais les éditions L'Âge d'Homme à Lausanne. Et elle connaissait le directeur, qui était Vladimir Dimitrievitch, un Yougoslave, qui dirigeait les éditions L'Âge d'Homme à Lausanne. Et c'était un type qui avait beaucoup d'idées, une grosse tête, il avait beaucoup d'idées. Et il avait fait une collection qui s'appelait Slavica, Slavica, comme il était Yougoslave, il connaissait les langues slaves. Et alors il y avait des auteurs, slave. Et puis dans sa tête, il voulait lancer une autre collection qui s'appelait Germanica, avec des auteurs allemands.
Ok.
Et alors, il cherchait quelqu'un. Alors elle m'a dit, va le voir. Bon, alors je suis allé le voir. Et il m'a dit, oui, bon, je suis là, Stirner. Oui, bien sûr.
Pour papa.
Darren Singer. Bon, et voilà comment j'ai commencé. Ça m'a bien plu.
Oui, ça t'a bien plu. Ouais.
Allez, continue comme ça.
Ouais. Ouais. Tu veux un peu de thé?
Petit peu. J'en ai un tout petit peu, mais.
Un tout petit peu. Pour donner énergie.
Oui.
Toi.
Oui. Moi.
Mais c'est très intéressant avec l'âge d'homme. L'éditeur de l'âge d'homme, c'est très intéressant. Il a proposé cette série Germania.
Oui.
Et il a prévu que tu...
Germanica. Et il n'avait pas prévu, mais il cherchait quelqu'un. Et donc, Marie et Christine, Henkel, la directrice du CIRA, me dit, va le voir. Il m'a fait confiance, parce que j'étais jamais traduit, quoi. J'étais débutant. Et bon, allez-y, je tiens l'air. Voilà, commencer comme ça. Et après, j'ai fait encore, pour lui, Landauer.
Ok.
Un Jugend Deutschland, et puis je crois peut-être un autre. Je ne sais pas. Enfin, les deux premiers ou les trois premiers livres de sa collection.
C'était toi, la traductrice.
Bon, et après, je me suis dit, je continue. Oui, il y avait... J'avais un copain qui avait lancé une petite maison d'édition, Lude.
Lude, oui.
Bon, et il était... Qu'est-ce que j'ai traduit pour lui ? Ah oui, Panizza. C'était petit, pas beaucoup, et deux ou trois petits livres par an, et on a fait deux ou trois Panizza, je crois. Puis Ball.
Oui, Ball. Mais Ball, j'ai cru que c'était plus tard, non ?
Non, Ball, c'est plus tard.
Oui.
Je me suis dit, ça me plaisait beaucoup. Le travail, tu fais ça à la maison, chez toi, tu n'es pas obligé d'aller au bureau, quand tu veux, le jour, la nuit. Bon, certes, il y a une date, il faut rendre la
décision. Oui, d'accord.
Jusqu'à la date, tu peux faire comme tu veux.
Mais tu avais toujours un rythme de travailler, non?
Oui.
Le rythme de travailler 3 heures, après manger, faire une sieste, 3 heures de traduction.
Pas travailler toute la journée.
Mais c'était ton rythme. C'était...
Alors, le rythme était comme elle a dit, 3 heures du matin et 3 heures... Non, 3 heures le matin, pas à 3 heures, mais 3 heures le matin, après déjeuner, sieste, et après tu as encore fait 3 heures.
Quelque chose comme ça.
C'était, je crois bien que c'était comme ça. C'était du travail. C'est pour ça que je me suis arrêté, parce que ça serait trop de travail. Sinon, j'aurais bien continué. Maintenant, toute la journée, le matin, l'après-midi, le soir, c'est un peu...
Du mochtest nie die Disziplin, aber du hattest immer einen Rhythmus.
Oui.
Das war sehr wichtig für dich, der Rhythmus.
Oui, oui.
Es war ein Meister.
À chacun son rythme.
Ja.
Et le tien était comment, ton rythme? Ton rythme à toi? Comme elle a dit.
Oui, oui, pour le travail, oui.
Ouais.
Et je pouvais encore travailler le soir tard. Maintenant, à 9h, maintenant, j'ai assez. Mais là, je travaillais souvent jusqu'à minuit.
Encore?
Oui, ça m'arrivait.
Ah, à l'époque.
Oui.
Mais maintenant, non.
Non, non, maintenant.
Non.
Et alors, vous, ça, vous le savez, mais moi, non. Hambourg, c'était dans tout ça. C'était quand, Hambourg? Comment tu es allé à Hambourg? Et tu as trouvé cette, retrouvé cette charmante Hannah et Lutz.
Et, Lutz, oui.
Et vous avez fondé cette merveilleuse maison d'édition ensemble.
C'était, es war 1971.
Ah,
après 68.
Oui, oui.
Oui.
Est-ce
69, je crois,
que je suis 60.
L'année après, 70.
Elle a dit
70.
Même
60.
Oui.
70. Man hatte dir gesagt, es gibt junge Genossen in Hamburg. Da solltest du hingehen.
Ja.
Ah, ich glaube, das war in Frankfurt, so Barrieu, alte.
Barrieu hat mir das gesagt.
Barrieu, genau. Ja. Barrieu ja. Hatte dir gesagt, Barrieu ist ein Anarchist aus Bordeaux.
Mhm.
Und ja. Er hatte ihm gesagt...
Kriegsgefangen in Hamburg während des Krieges. Und kannte Hamburg, es hatte ihm gefallen.
Aha.
Und hatte noch Freunde, Bekannte, Genossen.
Zwei alte.
Die zwei Anarchisten in Hamburg.
Ah. Zwei alte.
Aha.
Et quand je lui ai dit, je pars en Allemagne, il m'avait dit, je connais quelqu'un à Hambourg.
Ah.
Et je parlais de, du Sierra, Marie-Christine.
Ah.
Il m'avait dit aussi quelque chose. Il m'avait dit Hambourg, c'est très bien, oui.
Ah.
Enfin, voilà. Alors, voilà, parce que autrement, moi je n'avais pas d'idée précise où je voulais aller.
Mais tu étais déjà, tu as dit, tu étais déjà avec Nadine, mais tu es
pas. Nicht.
Non.
Nadine hast du doch in Hamburg getroffen.
Oui.
Ah.
Oui, je connais.
Ja.
Ok.
On travaillait pour gagner un peu d'argent. On travaillait dans une. On donnait des cours de français dans une. Comment ça s'appelait?
Cologne.
Fremdsprachenschule.
Genau, Cologne.
Cologne.
Ja.
Et bon, minimum 5 ou 6 heures par semaine, quoi. Juste pour le minimum. Mm. Elle aussi, c'est connu.
Ah, ah, Elle vivait à Hambourg à cette époque-là.
Oui.
Ah, ok. Mm. Alors, tu es vraiment allé à Hambourg pour rencontrer ces deux genossen, ces vieux anarchistes.
Oui.
Et ça t'a plu, et ils t'ont plu, et tu t'es installé à Hambourg.
Oui.
Oui. Oui. Et.
J'étais libre comme l'air, comme on dit. Je suis à Hambourg.
Et là.
Hambourg. J'ai froid.
Ouais.
Bon, je n'ai jamais. Maintenant, oui, mais le froid, ça ne faisait pas peur.
Alors, tu as traduit, tu as donné des cours.
Oui, ben oui, oui. Bon. Pour pouvoir manger,
oui, bien.
J'ai donné quelques heures de cours par semaine.
Ouais.
Et puis, j'ai traduit, oui, quand ça s'est fait. Oui, bah, j'ai été voir Dimitrievitch qui m'a donné les deux premiers livres.
Ouais.
Et après j'ai traduit pour
Lutte.
Comment il s'appelait?
Lutte.
Lutte, il s'appelait comment le copain. Je sais plus. Enfin bon, pour Lutte.
Marc.
Et puis. Oui, ça se fait comme ça. Hein. Après. Ouais. Je connaissais quelqu'un chez Gallimard qui m'a donné des traductions de temps en temps.
Ouais. Tout en étant encore à Hambourg.
Oui.
Oui. Et cette histoire avec votre maison d'édition et de publier ces textes et de travailler politiquement, ça m'intéresse comment. J'ai vraiment entendu toute l'histoire. Comment vous avez rencontré, toi et Lutz, et toi avec Hannah, et l'idée de, parce que c'est quand même un grand truc, de dire on fait une maison d'édition.
Non, wir haben keinen Verlag gegründet. Wir haben einfach gesagt, wir veröffentlichen Texte. Du kamst mit den Ideen, Rätekommunisten, Situationisten, die hast du gesagt, die muss es auf Deutsch geben. Und dann haben wir Broschüren gemacht und eine Zeitschrift. Aber es war kein Verlag.
Ah.
Ne? Wir hatten nicht die Idee, das wird ein Verlag, sondern wir haben gesagt, hier, die Genossen, die sollen was.
Und du warst auch Genossin.
Ich war auch Genossin.
Ja. Mhm. Also ihr habt euch über dieses Genossensein.
Ja.
Und
tu as trouvé le premier été Lutz, tu as trouvé Lutz au centre d'anarchiste à Hambourg. Dans le bâtiment là.
Ouais.
À Hambourg. Mm-hmm. Lutz était là très jeune. Mm-hmm. Et il est inspiré de toi. Parce que tu étais un vétéran de mai 68. Lutz était comme ça, enflammé de tes idées. Et toi, pour toi, c'était très agréable de son énergie, son enthousiasme. Non? C'était comme ça.
Ah, ouais.
Alors, et vous étiez trois ou vous étiez. Et toi, tu étais déjà avec Lutz?
Non.
Tu étais son.
Non. C'était le premier, était Lutz et Pierre.
Ah.
Et quelques autres amis ou
oui,
anarchistes.
Oui, un petit groupe.
Un petit groupe.
Ouais.
De
tu avais, ouais. Oui, Klaus. Tu avais alors.
Et Klaus.
Et à Klaus, non. Pas à ce temps. Mais il y avait quelques très jeunes. Roberto, Günther. Mais c'était. C'était les jeunes anarchistes et qui veulent être informés sur les idées nouvelles.
Ok. Et les idées nouvelles, c'était 68, c'était les situationnistes.
Yeah.
Les deux choses. Ces deux choses.
Aussi les communistes de Räte communistes.
Ouais. Ok. Ok.
La tradition libertaire.
Ouais.
Du communisme.
Ouais. Ok.
Anarchisme.
Ouais.
Et on avait beaucoup de discussions politiques à ce temps-là. On fait des discussions avec autres groupes.
Ouais.
C'était dur quelquefois avec les marxistes et toutes les choses comme ça.
Ouais.
Non?
J'y pense de temps en temps.
Ah.
Un jour, j'aime pas beaucoup ça, mais je faisais une conférence, j'étais à une table, je faisais un discours.
Yeah.
Et en face, il y avait pas beaucoup. La salle n'était pas pleine, mais il y avait quelques dans les premiers rangs déjà. Et je sais pas ce que je racontais, je ne sais plus quel était le sujet aussi. Et il y a. Un type là, il m'a dit, je ne sais plus exactement comment il a dit, parce que la Franzose a erzählt, wo ist denn da die politische Relevanz? Ja, doch, die politische Relevanz.
C'était comme ça.
Ja, c'était la bonne époque.
Et de dire, nous on veut éditer ces textes pour qu'ils puissent être lus en Allemagne. Alors, parce que toi, tu as traduit vers le français.
Mm. Oui.
Tu as traduit, normalement, tu as traduit vers le français.
Mm. Oui.
Mais là, vous vouliez publier des textes en allemand.
Mm-hmm.
Alors, comment vous avez fait?
On fait en tandem, Pierre et moi.
Ok.
On fait, pour l'Allemagne, on fait tous en tandem.
Ouais.
Ni Pierre, ni moi pouvaient faire le seul.
Ok.
Moi, non
ouais.
Pas du tout.
Ouais.
Mais aussi Pierre, non.
Ouais.
Parce que j'étais le lecteur
pour l'allemand.
Pour l'allemand.
Ouais, ouais.
Der Texteditor.
Oui, ja, der Posteditor.
Der Posteditor. Genau.
Ja. Ah, okay.
Et on était tous ensemble. J'avais la machine à écrire et Pierre avait le livre pour traduction, et on avait les dictionnaires, les grands dictionnaires là-bas.
Ouais. Ouais, super.
C'était comme ça. Et moi, j'ai...
Ouais. Et vous avez traduit ensemble quoi alors?
Les textes, tous les revues situationnistes.
Waouh.
Numéro 1 à numéro 12.
Ça existe encore tout
oui,
ça?
Oui.
Ah.
Et aussi quelques autres. Van Eckem, quelques livres de Van Eckem.
De Beau, non?
De Beau, non?
Non. William, oui.
Van Eckem.
Oui, le traité. Non, le traité,
non, non, pas le traité, mais les livres après.
Ouais.
Mais le commencement était la traduction des les revues situationnistes complets. Avec tous, avec les petits textes et les grands textes. Et c'était, pour moi, j'étais si jeune et c'était tellement intéressant parce qu'on pouvait revivre le développement de ce groupe.
Ouais.
C'était les textes banals ou les textes grands, c'était très intéressant.
Ouais.
C'était un changement des personnes qui écrivent. Pour moi, c'était le développement de moi-même.
Oui, super.
Oui, c'était très important pour moi.
Oui.
C'est la politisation ou la socialisation de mon pensée politique
oui.
avec Pierre et avec cette production.
Ouais. Et vous avez fait ça dans cette maison anarchiste ou à la maison?
Non, à la maison.
À la maison.
À la maison ou ici dans le sud, quand tu étais à Aix, dans cette cabane, on avait une petite machine et on prendrait la machine.
Ok. Ah! Tu n'es pas resté pendant tout ce temps à Hambourg, tu étais revenu en France après.
Avec Nadine.
Ouais.
Ouais, je suis parti en 70, je crois, je suis parti.
En
70, tu es venu à Hambourg. Tu es allé.
Vier,
fünf Jahre. Ok.
Non, nicht mal.
Ok. Et la maison d'édition, ou, et je dis maison, mais de vraiment dire maintenant, c'est plus que d'éditer des textes, mais ça devient plus grand ou plus important, ou c'est notre vie, c'est pas seulement qu'on veut faire lire les textes politiques, mais on veut donner notre vie à cette tâche.
L'autre...
Il était le moteur. Et es gab eine Situation, wo wir dann gesagt haben, wenn wir weitermachen müssen, müssen wir professionell werden und dann hören wir auch auf zu arbeiten nebenbei und machen nur das. Pierre war schon wieder in Frankreich und wir haben entschieden, wir machen jetzt einen Verlag. Und da warst du noch der wichtige Ideengeber.
Wir hatten immer
Schreiben, Briefe, du hast Listen gemacht, was man noch alles veröffentlichen soll. Und wir haben zum Teil, also Charles Mingus, die Autobiografie von Charlie Mingus, von Billie Holiday, von Jacques Mesrine, das waren alles deine Ideen. Du hast dann gesagt, ja, wenn ihr Geld verdienen wollt, macht doch was anderes, macht doch nicht nur Anarchisten, macht solche Sachen. Und auch Tristan Tzara. Picabia. Das waren alles deine Ideen.
Ah.
Und dann haben wir gesagt, oh ja, super, oder oh, lieber nicht. Mm. Aber bei vielen Sachen haben wir gesagt, ja, super Idee. Tu étais très important pour les idées et la direction de
l'édition.
Oui.
J'ai cru que c'était vous trois qui ont fondé...
une maison.
Non.
C'était un projet. Pour nous, c'était un projet politique et pour la joie. Pour
le plaisir.
Pour le plaisir, oui. Ein Spiel. Du hast immer gesagt, ein Spiel. Le jeu. Le grand jeu.
Oui. La vie est un grand jeu.
Ah. si ça passe bien. Intéressant.
Ouais.
Et après les traductions professionnelles, c'était un moment où tu as dit non, je fais mon poésie seulement. Seulement mon propre poésie. Mmh. Non? Mmh. C'était quelques années, tu dis non, fini avec la traduction, maintenant la poésie pour moi.
Oui, c'est vrai. Non, mais parce que
comment je fais,
mais même quand je t'ai connue, tu as encore fait la traduction. Alors, il a repris ou.
Nee, jetzt so vor 10 Jahren
ja,
oder so.
Ja,
aber es sind 10 Jahre her, ne? Wie lange kennt ihr euch?
Wir kennen uns 13 oder 14
ja,
Jahre.
Ja, genau.
Oui. Mais tu as encore traduit. Tu n'as pas fini la traduction il y a 10 ans, non?
Oui, non, j'ai encore. Oui.
Ich glaube, als er geerbt hat, als seine Eltern ja. gestorben sind und er geerbt
ja.
hat.
Ja, tu te rappelles plus exactement, c'est pas grave, mais. Mais je me rappelle parce qu'on a quand même beaucoup téléphoné et il n'y a pas longtemps que tu avais ces problèmes avec cette jeune éditeur qui t'a pas payé, tu sais, tu te rappelles qu'il oui. avait toujours ces problèmes. Mm. C'était quoi comme traduction? Il était sympa, c'était pas mais il avait pas beaucoup d'argent, tu sais, tu
t'es rappelé.
Oui, c'était le dernier bal, non?
Oui, je crois.
Ouais. Ah, OK.
C'était le dernier bal il y a pas longtemps. 5 ans, 6 ans à peu près, non?
Okay. Oui, bien. Oui,
okay. Tu me l'as envoyé, alors je peux regarder, mais dans ma mémoire, c'est assez récent. Oh oui, et les recueils de poésie.
Mm. Oui.
3, non? 3 déjà.
Des recueils de poésie.
Tes recueils de poésie, ce sont au moins 3.
3 ou 4.
Ou 4, oui. Ouais.
Ah. Et bientôt au 5e.
Ah.
Oui, il ne faut pas s'arrêter.
Non.
Si on s'arrête.
Et toujours ce proverbe qui te plaît, comme au commencement? Prévert est
oui,
toujours
en... Oui. Oh, je ne le lis plus très souvent, mais pour moi, ça reste celui qui.
Ok, ouais. Très intéressant. Qui encore?
Comme poète.
Oui.
Il y a deux, Prévert et le Éluard.
Éluard.
Puis après, beaucoup d'autres. Il est surréaliste. Même Victor Hugo. il y a des choses de Victor Hugo qui sont très bien.
Bien sûr. Ton amour pour Prévert, hein, mais quand même, je voulais dire que ta poésie à toi, elle est vraiment très différente de ce qu'il fait.
Oui.
Pour moi, j'aime bien Prévert, je ne suis pas du tout une spécialiste, du tout, mais j'aime bien. Et c'était aussi pour moi une découverte parce que moi j'étais folle d'amour pour Paris. Et pour moi, Prévert, c'était aussi, pour moi, c'était aussi Paris.
Ah.
Mais je trouve ta poésie à toi, elle est beaucoup plus.
Oui, c'est pas pareil. Hein.
Pas pareil du tout.
Non.
Elle est beaucoup plus complexe, libre, ouvert, moins conventionnel dans l'écriture.
Oui.
Quand on te lit et on lit Prévert, ça ne me viendrait pas à l'idée que c'est lui ton idole. Je trouve que c'est magnifique, ça. Hein? Mais en tout cas, c'est autre chose, c'est autre chose, sans vertum, sans dire l'un est simple et toi, tu es très travaillé, c'est autre chose.
Mmh. Oui, oui, comme poète et comme homme, ça reste quelqu'un pour moi.
Oui.
Wenn du Poesie schreibst, wenn du dich hinsetzt und schreibst, kommt das alles so aus deinem Herzen oder kommt es mehr aus deinem Kopf? Ja, also ist es eine Form? Ist es auch eine Form immer? Oder kommt das so wie ein Poet, also wie ein Musiker aus dir heraus, ein Rhythmus?
Musik.
Wie Musik.
Mais aussi, moi, je suis pas d'accord avec la différence que tu fais parce que
parce que
aussi la musique c'est de la forme et le cœur c'est aussi la forme et il travaille beaucoup la forme même quand il dit maintenant il dit le cœur mais il travaille il travaille beaucoup la forme.
Oui, oui, c'est pas de la direction automatique.
Non. Et moi, je dirais, le cœur ne va pas sans forme, et vice versa. Hein? Mm-hmm. Sinon, ce sont des, je connais pas le nom français, mais sinon, ça risque d'être des agus, et des agus, c'est pas assez.
Des effusions.
Ouais.
Effusions.
Effusions.
Ouais. Ah. Ouais.
Aber wir haben auch gelernt mit dir. Die Écriture Automatique auszuprobieren,
ja.
Also als Spiel,
ja.
Das war wichtig. Ne?
Das ist auch, glaube ich.
Das ist wichtig.
Mais comme je comprends moi, l'écriture automatique, elle est aussi une forme. Elle se donne des formes, elle se donne des, parfois un peu absurdes, mais c'est aussi une forme.
Oui, c'est pas n'importe quoi.
Non. Et si je me souviens bien, ta vie était aussi très très marquée par la lecture. Toutes les lectures que tu as faites, par exemple, tu m'as quand on s'est connu, j'ai vraiment une brief Excel. Une brief Excel, c'est pas vrai parce que moi, shame on me, j'ai pas autant répondu du tout. Mais Pierre, il m'a vraiment écrit beaucoup de lettres et tu as beaucoup parlé de tes lectures. Mm. Mm. Et les lectures ont aussi structuré, question rythme de vie, tes lectures ont beaucoup structuré aussi ta vie, ton travail, je crois, et aussi fourni les outils pour ton écriture de poète.
Mm. Oui, c'est vrai.
Toute ta vie, tu étais un grand lecteur.
Oui.
Et un lecteur systématique.
Oui. Je suis encore.
Oui.
Et systématique aussi. Tu as dit maintenant, je vais lire ça ou je vais relire ça. Mm. Assez systématique.
C'était vraiment systématique.
Oui.
Bien.
Moi, j'avais l'impression. C'était assez systématique, non?
Oui, je suppose. Oui, j'ai pas lu n'importe quoi.
Non, il a dit maintenant, je vais relire tous les Céline. Il m'a dit, je me rappelle pas tout ça. Si j'avais eu le temps, demain j'aurais fait une liste, tout ça. Mm. Mais c'était assez systématique. Mm. Et j'avais l'impression que c'était aussi en vue d'un certain projet d'écriture ou de travail. C'était mon impression en tout cas. Et je me suis dit, waouh, il faut faire comme ça. Hein?
Oui. J'ai beaucoup lu, c'est sûr. Et beaucoup lu de poésie. Donc même, la prose, les romans, ça ne m'intéresse pas. Je lis très peu. Bon, les grands hommes, Céline, d'accord. Mais pour ça. Un petit roman.
Limon règne animal. Limon, Jean-Baptiste de l'amour règne animal. C'est un grand livre. Un jeune auteur, un malheureusement gros livre. Mais peut-être tu le lis, ça m'intéresserait beaucoup ce que tu en penses. Et tu as lu Mathieu Riboulet, et là tu as dit que ça t'a beaucoup plu.
Oui.
Tu as dit c'est un bon parce qu'il est. Il est aussi très à gauche et il est aussi presque poète. C'est presque c'est presque la poésie. C'est un langedicht. C'est comme un langedicht. Ouais.
Parce que lire de la prose en général maintenant. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui me sinon. j'aurais jamais le Goncourt, par exemple.
Oui. Le poésie, la poésie est plus que la musique et c'est une question du rythme, de association libre et je peux imaginer que tu aimes comme ça, la langue comme ça.
Ah. Oui, c'est la liberté.
Oui, c'est la liberté.
Bon. On peut et en même temps.
Et en même temps.
Oui.
Construction à partir de la liberté.
Oui.
Ouais. Tu as déjà un titre pour le nouveau recueil?
Non.
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 Le titre, c'est Evie qui le fait?
Non,
c'est toi.
Non, mais au dernier moment, enfin bon, je passe par l'avance.
Ok.
Quelquefois même. Tout simplement un poème. Je n'ai pas de titre.
Leider ist es so, dass deine Poesie so komplex und so schwierig ist, dass ich sie nicht verstehen kann. Also ich kann das nicht. Das ist für mich zu hoch. Das ist zu viel, also zu ungewöhnlich, die Wortzusammenstellung, auch die Worte zu ungewöhnlich.
Ja.
Ich bräuchte eine Übersetzung von Karin.
Ja.
Oder von dir. Eine Variation allemande.
Mm-hmm. Oui. Tu pourrais faire ça?
Oui.
Pas une traduction, une variation.
Une variation, oui.
En langue allemande. Mm-hmm. C'était.
C'était une très bonne idée.
C'était très.
On aurait pu écrire directement en allemand.
Oui. Oui.
Oui.
Mais. Non, ça va pas.
Tu n'es plus dans la langue comme ça. Hein. Mais on pourrait se faire une fois, on pourrait se faire une joie et peut-être travailler un peu ensemble sur tes poésies, peut-être. Nous deux, je veux dire. Allemand, français, quelque chose comme ça.
La prochaine fois.
Oui, mais
à Arles.
À Arles ou ailleurs, mais où il faut que tu viennes, parce que sinon on ne peut pas travailler ensemble.
C'est vrai.